Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8. Léa Bouvet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e émission de Microcité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble. Au programme cette semaine, Agathe Legrand et ses invités nous parleront de la dépendance aux écrans, pourquoi sommes-nous de plus en plus addicts et quels sont les risques. Nous y reviendrons dans le dossier de cette émission. Et à l'approche du week-end, vous aurez peut-être envie de partager une bière entre amis. Le marché des bières locales est en pleine explosion. Près de chez nous, par exemple, la brasserie artisanale La Furieuse nous a ouvert ses portes pour nous raconter les coulisses de la fabrication. Reportage de Gwendoline Langlois en fin d'émission. Vous avez le programme, on est ensemble en direct jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8. Microcité, c'est parti. Et tout d'abord, on commence avec le journal d'Anouk Caron. Bonjour Anouk.
Bonjour Léa, bonjour à tous. Protocole sanitaire allégé à l'école. Jean-Michel Blanquer a annoncé les nouvelles mesures du gouvernement. On vous les détaillera dans quelques instants. 7200 policiers et gendarmes vont être mobilisés par la préfecture de Paris et ce pendant 3 jours. Le but, empêcher les convois de la liberté de bloquer les routes des Franciliens. Et c'est bientôt la Saint-Valentin, les bouquets de roses commencent à fleurir dans les boutiques du centre-ville de Grenoble. Cette semaine, on a décidé de s'intéresser à l'aspect écologique de cette fleur, reportage en fin de journal. Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles a été dévoilé par Jean-Michel Blanquer il y a quelques heures. Des annonces qui devraient soulager les enseignants et les parents d'élèves, Clémentine Proutot.
Oui Anouk, les élèves vont pouvoir enfin souffler à la rentrée prochaine. Le protocole sanitaire va être allégé au retour des vacances d'hiver de chaque zone. Dans l'académie de Grenoble, à partir du 7 mars, plus besoin de faire 3 autotests lorsque l'enfant est cas contact. À partir du 28 janvier, un seul sera nécessaire. Fini aussi les déclarations sur l'honneur confirmant que l'on a bien fait le dit autotest. Autre allègement, pour les enfants du primaire, le port du masque en cours de récréation ne sera plus obligatoire. Par contre, il le restera en classe. Ces décisions ont été prises après l'amélioration de la situation sanitaire en milieu scolaire. Hier, 12 500 cas Covid étaient comptabilisés parmi les élèves, contre plus de 160 000 fin janvier.
Oui, et sachez que le 28 février, il sera possible de lever le masque dans tous les lieux publics où le pass vaccinal est demandé. La 10e journée du procès de Nordal Lelandais s'est ouverte aujourd'hui. L'ancien militaire de 38 ans est accusé du meurtre de la petite Maïlys. La cour de Grenoble tente en ce moment de comprendre comment l'enfant est décédé et si elle a été victime d'agressions sexuelles. Les zones d'ombre persistent à ce sujet car les versions de l'accusé varient.
Et le convoi de la liberté a pris le départ mercredi, retrait du pass vaccinal, hausse du pouvoir d'achat. Les manifestants expriment leur ras-le-bol général.
Oui, et c'est près de 4000 manifestants qui font route vers la capitale. Et ce, malgré la décision de la préfecture de Paris qui a interdit les rassemblements liés au convoi. Alors, un dispositif spécial est mis en place par les forces de l'ordre pour empêcher les blocages d'axes routiers. 7200 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale pour contrôler et verbaliser les manifestants. Au total, 1700 véhicules sont attendus à Paris dès aujourd'hui et tout le week-end. Top départ des vacances de février pour la zone A et donc pour Grenoble. La zone B, elle est en vacances depuis déjà une semaine et certains touristes ont donc pu rechausser les skis en Isère. Un soulagement pour les stations, car cette période représente généralement une grosse part de leur chiffre d'affaires. Céline travaille à l'office du tourisme des Sept-Lots à Prapoutel et cette semaine, il n'y a pas que le soleil qui lui donne le sourire.
On est très content de pouvoir refaire une saison à peu près normale. En tout cas, on sent bien que la fréquentation est très satisfaisante. Les taux de remplissage sont à 100% sur les 3 premières semaines. Et on sent bien que la clientèle est également ravie d'être là, hein, que même s'il faut mettre un masque dans les files d'attente, ils le font, il n'y a pas de souci. Puis les tours de cou maintenant sont anti-Covid, hein, ils ont adapté, donc c'est finalement pas une contrainte si forte que ça. Avant la crise, on sentait des vacanciers qui étaient dans une, on va dire, une optimisation de consommation. La queue pour le matériel, la queue pour les forfaits. Et là, quand ils arrivent, et vraiment, ça y est, c'est les vacances, on se pose. On sent que la montagne a manqué pendant ces dernières périodes de Covid.
Et sachez qu'en plus, Météo France prévoit un week-end ensoleillé sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Emmanuel Macron s'exprimait hier à Belfort sur le nucléaire. Le presque candidat à l'élection présidentielle lance un vaste plan de relance. L'objectif phare, construire 6 réacteurs nucléaires de type EPR2 d'ici 2050. Et pour assurer ce plan, EDF lance une campagne de recrutement. 3000 postes vont être proposés. La moitié sera destinée à des ingénieurs.
Et une nouvelle qui risque de déplaire à certains lycéens qui se réjouissaient de ne plus avoir de maths dans leur emploi du temps.
Et oui, parce que Jean-Michel Blanquer revient sur sa décision et pourrait réintégrer les mathématiques dans le tronc commun. En fait, depuis sa réforme en 2019, les élèves qui ne choisissent pas cette matière ne font tout simplement plus de maths. Et ça, c'est une décision qui agace Myriam Benedetti, professeure de mathématiques en lycée.
Il n'y a que dans cette réforme qu'on a pu un jour dire, voilà, à un élève de seconde, finalement, on lui annonce, à la fin de ta seconde, si tu veux, tu peux arrêter les maths. Imaginez-vous, l'élève qui est un peu en difficulté en mathématiques, va-t-il seulement essayer de combattre ses difficultés, sachant qu'il peut arrêter à la fin de l'année? C'est comme quand M. Blanquer, avec cette réforme, leur a dit « Choisissez ce qui vous fait plaisir ». Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre les spécialités qui vont avec le métier qu'on souhaite faire.
Aujourd'hui, ce sont 4 élèves sur 10 qui ne font plus du tout de maths en dernière année de lycée. Journée déception aujourd'hui aux Jeux Olympiques d'hiver. La skieuse française Tessa Worley finit 19e en Super G. Et en biathlon, c'est la grosse désillusion. Les Françaises ont manqué leur sprint après une grande faillite au tir.
Et lundi prochain, c'est la Saint-Valentin, l'occasion d'offrir ou de s'offrir un joli bouquet de fleurs.
Et oui, et la vedette du 14 février, c'est la rose. Mais le problème, c'est que la rose est romantique, mais pas très écologique. Mais est-ce que c'est vraiment possible de trouver des roses écologiques en cette saison? Eh bien, Clémentine Proutot a posé la question à des fleuristes grenoblois.
La fleur la plus vendue du monde est la star de la boutique au nom de la rose. Ici, à cette saison, elles viennent pour la plupart d'Équateur, une fleur au bilan carbone lourd. Mais les roses venues d'Europe sont elles aussi polluantes. Amandine Dolin, employée de la boutique, tient à le rappeler.
Il faut savoir que les serres en Hollande ou même les serres en France, à cette époque de produire, on éclaire quasiment constamment. On chauffe aussi. Si ce n'est pas 24 heures sur 24, c'en est 18 ou 20 heures.
En ce moment, en plein hiver, les roses écologiques sont rares. De nouvelles habitudes de consommation sont à prendre pour Martine Gilbert, fleuriste de la verticale du jardin.
Renoncule, tulipe, ça c'est des choses qui sont cultivées dans le midi. Et là, ça nécessite moins de chauffage quand même, ou pas du tout. Donc il y a une prise de conscience et on trouve des produits. Donc ça c'est chouette. Et voilà, c'est à tout le monde de faire le choix d'acheter un peu différemment.
Une stratégie qui peut aussi faire du bien au porte-monnaie. En février, le prix des roses peut tripler avec la demande, alors que le prix des autres fleurs de saison reste lui inchangé.
Et si vous tenez vraiment à acheter des roses françaises, il faudra faire preuve d'un peu de patience, puisqu'elles ne fleurissent qu'entre la fin avril et la mi-juin.
Anouk Caron vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Microcité, ça continue toujours sur Radio Campus. Il est 16h37. Et dans quelques instants, on parlera de notre rapport aux écrans et notamment des conséquences de ces pratiques sur les plus jeunes. Mais d'abord, petite pause musicale. Restez avec nous. À tout de suite.
Me show them here, feel it. We are the younger and the hunger.
Holy water, crying like the altar. In and your desire, freedom from the Maya, Maya.
them passion. Your history walk through them golden lines. Your blood carries diamonds. When they fought, they cleared that spirit away. We are the reincarnation.
My spell made up. Magic.
C'était Made of Gold d'IBI et passe à lieu. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Radio Campus, il est 16h41.
Le dossier de la semaine.
Smartphone, tablette, télé, ordinateur, les écrans gagnent du terrain dans notre quotidien. Alors sommes-nous tous devenus accros ? Ce qui est sûr, c'est que l'on ne donne pas toujours le bon exemple aux plus jeunes, qui passent eux aussi de plus en plus de temps sur un écran. C'est ce qu'explique notamment le rapport Ipsos Parents, Enfants et Numérique, publié ce lundi. Quelles sont les conséquences de cette exposition croissante ? On en parle tout de suite dans ce dossier avec Agathe Legrand et ses invités. Bonjour Agathe.
Bonjour Léa. Oui, alors en effet, cette étude Ipsos a été menée pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique en juillet 2021 sur plus de 2000 parents et 700 enfants. Alors nous sommes justement en compagnie de Thomas Romer, directeur de l'association. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et puis pour répondre également à vos questions, Caroline Cuny, docteur en psychologie cognitive. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
Voilà, et avant de commencer, Léa Bouvet, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'on trouve dans ce rapport ?
Eh bien, on y apprend sans surprise qu'avec la crise sanitaire, notre exposition aux écrans a encore augmenté. 77% des adultes expliquent qu'ils y passent trop de temps désormais. Et en moyenne, les enfants reçoivent leur premier écran à l'âge de 10 ans. Alors, cette exposition croissante et de plus en plus précoce n'est pas sans conséquence. La majeure partie des adultes sont conscients des risques de dépendance, de cyberharcèlement ou de mise en contact avec des inconnus. De leur côté, près de la moitié des plus jeunes évoquent des maux de tête, des difficultés d'endormissement ou encore de la passivité. On apprend aussi dans ce rapport que près de la moitié des enfants de moins de 2 ans utilisent Internet. Pour eux, comme pour les plus grands, il s'agit souvent d'applications de vidéos comme YouTube, Snapchat, TikTok, sans compter les films, les séries ou les jeux vidéo. Un moyen d'occuper facilement les enfants pour des parents souvent débordés par ces nouveaux usages. À peine 4 familles sur 10 déclarent avoir eu un échange avec leur enfant sur ces pratiques numériques. Et de nombreuses familles peinent à imposer des règles et à montrer l'exemple. Près de la moitié d'entre elles ont déjà utilisé un logiciel d'espionnage, parfois en concertation avec leurs enfants, mais ces pratiques ont augmenté de 70% en 2 ans.
Donc Thomas Romer, vous êtes le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Donc c'est l'association qui a commandé cette étude à Ipsos. Pourquoi avoir commandé cette étude ?
Alors, cette étude est la continuité d'une précédente étude que nous avions réalisée en amont des confinements, qui consiste à observer régulièrement les pratiques numériques au sein des familles, avec toujours en focus une volonté de regarder ce qui se joue dans les relations entre les parents et les enfants, et aussi les éventuelles difficultés que rencontrent les parents en termes d'enjeux éducatifs. Et pour le coup, on n'a pas été déçus. Et oui. C'est vraiment au cœur du projet de notre association qui, évidemment, en tant qu'observatoire, observe et essaie de commanditer des études, mais également propose des actions de soutien à la parentalité sur toutes ces thématiques partout en France.
Oui, donc vous venez de dire que vous n'avez pas été déçu, donc c'est des résultats qui ne vous ont pas surpris. Je pense par exemple aux chiffres, la moitié des enfants en dessous de 2 ans qui utilisent Internet, c'est quand même un peu surprenant, non ?
Alors, c'est surprenant, mais je pense que derrière cette définition d'utilisation d'Internet, on peut y voir de multiples pratiques, et notamment, je pense que dans l'esprit des parents, ça ne veut pas dire que, contrairement à ce qu'on entend parfois maintenant de la bouche même de certains médecins, que des enfants vont se créer un compte sur un réseau social avant 2 ans. On n'est pas dans le fantasme. Je pense que tout simplement, dans l'état d'esprit des parents, cette connexion Internet, c'est plutôt le fait pour eux de, en effet, regarder un dessin animé le matin, par exemple, sur une plateforme de SVOD ou même sur YouTube. Pour les parents, c'est de la connexion Internet et en effet, c'est le cas. Donc, je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut interpréter le chiffre sans pour autant y voir non plus une explosion des consommations face à des enfants de toute façon dont le cerveau n'est pas constitué pour pouvoir avoir des démarches empiriques sur Internet. Donc, pas non plus d'extrême inquiétude ou d'ultra-alarmisme par rapport à ça. Ce qui questionne le plus, c'est quel est l'intérêt, en fait, de mettre un enfant avant 3 ans devant un dessin animé le matin. Et je suppose qu'on en reparlera avec Caroline.
Bah oui, justement, je me tourne justement vers Caroline Cuny. Donc, elle est docteure en psychologie cognitive. Et cette augmentation de la consommation qui est due en partie avec la pandémie, est-ce que c'est inquiétant selon vous, Caroline ?
Ah, ça c'est une très très bonne question. Je pense que il y a des aspects qui sont inquiétants, qui sont peut-être associés à ce que vous disiez en préambule, c'est-à-dire des problèmes de sommeil, des problèmes aussi de fatigabilité et du fait qu'on va utiliser ses ressources mentales ici et ses processus attentionnels de façon un peu différente que si on se baladait par exemple dans la nature ou si on interagissait avec des pairs. Et puis il y a des choses qui sont associées à la sédentarité aussi dont on est un peu tous victimes. Ce que je voudrais tout de même dire, c'est que bien évidemment Internet, et là on en parlait à propos d'aller regarder des dessins animés, mais c'est tout un tas d'autres informations qui sont tellement attractives pour nos cerveaux, puisqu'on peut trouver absolument tout ce qu'on veut. Donc, si j'ai décidé de m'intéresser à l'astronomie, je vais pouvoir aller chercher des informations là. Si je suis une passionnée de maquillage, je vais pouvoir trouver des informations ici. Si, effectivement, j'ai des dessins animés préférés, je vais pouvoir aller ici les regarder à l'heure où je le désire. Donc, forcément, tout ça, c'est absolument passionnant pour notre cerveau qui a du mal tout de même à se réguler.
Oui, donc on l'a compris, c'est quand même un outil assez intéressant, tant dans le travail que dans le loisir. Mais justement, vous avez évoqué des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration. Ça peut avoir des conséquences sur le long terme, Caroline Cuny ?
Alors, sur le long terme, moi-même, je n'ai pas mené d'études sur les enfants, mais il y a d'autres études, effectivement, qui montrent. Alors, il y a des problèmes très concrets sur l'endormissement qui sont liés à la fois, bien sûr, aux lumières bleues des écrans, à la fois aussi à l'excitation, je dirais, cognitive qui est due au fait que je vais être stimulée par des choses super intéressantes, comme je le disais juste avant, parfois au moment de m'endormir ou juste avant de m'endormir. Et puis, il y a aussi le fait que, puisque je vais moins dans la nature, moins interagir avec d'autres enfants ou entre adultes, alors je vais aussi avoir une fatigue mentale qui va être plus forte et une fatigue physique, elle, qui va être moins forte. Et du coup, ça va créer des problèmes de sommeil.
Mmh. Et donc, Thomas Romer, ce sont des problèmes aussi, ou des conséquences que vous avez pu remarquer au sein de votre association où vous êtes plus modéré sur le sujet ?
Ah non, j'adhère à 100% à ce que vient de dire Caroline. Là-dessus, on a pas mal de recherches. Alors après, la difficulté, c'est que la terminologie d'écran telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est présente dans la recherche scientifique que seulement depuis 3-4 ans. Et jusqu'à présent, toutes les conclusions qu'on trouve parfois dans certains livres un peu qui font peur aux parents reposent uniquement sur des recherches qui émanent de la télévision. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes typologies de comportement. Après ça, nous, dans les rencontres, les groupes de parole, les conférences qu'on fait un peu partout en France avec notre équipe, c'est vrai qu'on est plutôt face à des parents qui sont d'une part souvent très inquiets par rapport aux environnements numériques dans lesquels évoluent leurs enfants, mais qui font preuve également souvent de bon nombre de contradictions, puisqu'on voit bien dans l'étude, et c'est quelque chose qu'on observe de longue date, les équipements qui arrivent entre les mains de ces enfants arrivent de plus en plus tôt, et donc il y a une véritable responsabilité des adultes, quels qu'ils soient, dans le fait de mettre ces outils de plus en plus tôt entre les mains d'enfants, avec en plus ce qui ressort de l'étude, et c'est d'où la nécessité pour nous vraiment de faire des actions de soutien à la parentalité sur ces thématiques, le fait que, comme vous l'avez souligné, les parents discutent que trop peu de ces pratiques numériques et de ce que les enfants peuvent faire avec. Et donc, on se retrouve avec pas mal de contradictions, pas mal d'enjeux éducatifs qui ne sont pas souvent ou trop peu mis en route au sein de la famille. Ce qui donne, quand les enfants deviennent adolescents, toutes les engueulades dont nous font part les parents, à savoir, il a du mal à décrocher de ses jeux vidéo, il a du mal à décrocher de ses séries, etc. Ce qui sont des comportements qui concernent tout le monde, pas uniquement les enfants, les ados, on a souvent tendance à l'oublier. Mais bien sûr, si les règles éducatives n'ont pas été mises en place dès le plus jeune âge, c'est plus difficile de les appliquer quand les enfants vieillissent.
Bah oui, surtout d'autant plus que les adultes reconnaissent eux-mêmes avoir des problèmes avec les écrans. Donc 77% d'entre eux dans cette étude disent passer trop de temps sur les écrans. C'est par exemple le cas de Nadège, rencontrée dans les rues de Grenoble. On l'écoute.
1h50 de jeu, 19 minutes de réseaux sociaux. Je sais que c'est beaucoup trop. J'ai découvert les jeux il n'y a pas très longtemps et j'aurais pas dû. Comment ne pas devenir addict ? Si c'est possible. Alors, je ne sais pas si je fais partie des gens addicts avec 3h40 minutes par jour, là, en l'occurrence. Est-ce que j'en fais partie ou pas ?
Donc voilà, c'était Nadège au micro de Clémentine Proutot. Donc Caroline Cuny, vous avez aidé à la rédaction d'un guide pratique halte à la sursollicitation numérique. Est-ce que vous avez des conseils ou des astuces pour aider cette retraitée ?
Alors, c'est vrai que ce guide, il s'adresse effectivement plutôt aux adultes et pas aux enfants. Oui, il y a quelques conseils. Il y a d'abord peut-être un conseil qui a un peu de raison, qui est de se demander pourquoi est-ce que je fais une activité. Donc ça, je pense que c'est valable pour toutes les activités. Donc, c'est un peu du bon sens, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et du coup, je décide, donc comme toute décision d'activité, je décide en conscience que ça va répondre à un besoin particulier, par exemple d'amusement, par exemple de recherche d'informations, par exemple de connexion avec des amis à distance, etc., etc. Mais en tout cas, je me pose cette question, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas cliquer de façon frénétique ou automatique sur quelque chose ou de dérouler mon fil Instagram comme ça au fur et à mesure des découvertes. Et je me pose vraiment cette question et c'est quelque chose qui est vraiment important de se prendre cette décision. Et j'aime bien rappeler, moi, que quand on décide de faire quelque chose, et ça sous-entend qu'on n'a pas le temps de faire autre chose, c'est-à-dire qu'on choisit de dire non à d'autres types d'activités. Voilà, un vieux sage bouddhiste disait un oui pour un non et un non pour un oui, donc c'est ça que ça veut dire. Donc, aussi se rappeler qu'on ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Voilà. Et puis, autre chose, que je voulais juste rappeler, c'est que peut-être rester très humble avec nos rapports aux écrans, justement, se rappeler que notre cerveau est très friand, comme je le disais tout à l'heure, des informations qui sont à sa disposition là, et que donc c'est normal en fait que je sois si intéressée par ça. Peut-être essayer dans une certaine mesure de voir comment est-ce que je réagis habituellement vis-à-vis de d'autres activités ou substances qui pourraient être très attractives pour moi, donc et appliquer les mêmes méthodologies.
La personne qu'on vient d'écouter a également évoqué le problème de l'addiction. Donc, elle se demandait si avec 1h30 d'utilisation à jouer à des jeux, elle était considérée comme addict. Vous lui répondez quoi, Caroline Cuny ?
Alors, pour l'addiction, il y a quand même une définition qui est précise. Et dans cette définition, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a cette notion souvent d'habituation, c'est-à-dire qu'on va vouloir en avoir plus pour avoir la même sensation de plaisir et aussi une souffrance qui est associée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que effectivement c'est trop et ça m'empêche de vivre un certain nombre d'autres choses. Donc là, dans ce que cette dame disait, j'ai pas eu l'impression qu'elle était addict pour le moment au sens strict de la définition.
Bon bah voilà, donc Nadège peut donc se rassurer, pas d'addiction de son côté. Et du coup, du côté des enfants, Thomas Romer, comment on peut donner les bonnes pratiques justement à nos chères têtes blondes? Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique.
Juste avant de répondre à votre question, si vous me permettez, j'apporterai un complément. Jusqu'à preuve du contraire, l'addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, comme on l'entend parfois, n'est absolument pas démontrée scientifiquement. Il faut faire attention, les mots ont un sens. Je rajouterai à la définition qu'a apportée Caroline qu'en plus, l'addiction, il y a un phénomène de sevrage derrière. Et on n'observe absolument pas ça. On n'observe pas de phénomène de sevrage sur les personnes qui ont des comportements excessifs vis-à-vis de leurs écrans. Donc voilà, on peut parler de comportement excessif, de dépendance comportementale, mais attention, le mot addiction, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Et puis pour répondre à votre question, les bonnes pratiques, elles sont à mettre en place, comme je le disais, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire avant 3 ans, on sait que de toute façon, les écrans sont à éviter au maximum, surtout ce qu'on appelle les écrans passifs, c'est-à-dire les écrans devant lesquels l'enfant n'interagit pas et sans la présence d'un adulte. Donc, tout ce qui est dessin animé, les Peppa Pig, Anne Trotro et autres Pat Patrol, avant 3 ans, il faut limiter vraiment au maximum, surtout si vous n'êtes pas en mesure de rester à côté de votre enfant lorsqu'il regarde un dessin animé. Et à l'issue, l'intérêt de rester à ses côtés, c'est de pouvoir interagir avec lui, c'est-à-dire d'observer son comportement et à la suite, lorsqu'on a fini le dessin animé, d'essayer de lui poser quelques petites questions sur ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu, quels sont les personnages qu'il a aimés. Et en fait, quand on met ça en place dès le plus jeune âge, on est déjà en train de faire ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. On est en train de mettre en place un raisonnement un peu logique de prise de recul dans le cerveau de l'enfant qui va se retrouver, si on l'aide à cela, à être en phase de questionnement. Parce qu'on parle beaucoup des écrans, mais en fait, oui, l'essentiel de l'écran, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'écran, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et ce que l'enfant ingurgite. Et après 3 ans, c'est quelque chose...
Voilà, une discussion avec les enfants et puis les fameux 3, 6, 9, 12 qui sont des chiffres, des âges clés pour avancer dans l'éducation aux médias. D'accord. Merci beaucoup Thomas Romer. On va devoir arrêter ce dossier sur le sujet fort intéressant. Je repasse la parole à Léa Bouvet.
Oui, merci à tous les trois pour cet échange. L'émission Microcité continue, il est 16h57.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Et vous faites peut-être partie des amateurs de bière artisanale, un secteur en pleine expansion qui représentait déjà 7 à 8% du marché en 2020. Mais comment fait-on une bonne bière locale? Gwendoline Langlois, vous avez rencontré un des fondateurs de la brasserie La Furieuse.
C'est en périphérie de Grenoble, à Sassenage, que la magie opère. Dans un hangar plein de silos et de cartons, houblon, malt et orge sont transformés en bière.
Le malt d'orge ou de blé, ça va être de la céréale qui est germée et torréfiée. Et ensuite, donc, nous avons le houblon qui va amener énormément de goûts différents, hein, qui vont des notes épicées vraiment aux notes fruits tropicaux, agrumes, pamplemousse, etc.
Pour passer de la graine au verre, 2 étapes nécessaires.
L'infusion du houblon pour en retirer donc les arômes et l'amertume. Et pour finir, donc, la fermentation avec les levures pour transformer tous ces sucres en alcool. Un brassin donc de 2000 litres, ça va nous prendre à peu près une journée de travail, hein, à peu près 7 à 8 heures. Et par contre, la fermentation, effectivement, ça va nous prendre un minimum de 21 jours.
En faisant varier les quantités et la durée de fermentation ou de torréfaction, Antoine obtient différents types de bières.
On a une triple à 9 degrés qui est excellente, mais qui est peut-être un petit peu plus sympa en soirée où on est là vraiment pour boire un coup. Pour se rafraîchir après une journée de boulot, on aura la blonde qui est très très bien. Il y a vraiment un moment pour chaque bière.
Une fois embouteillées ou mises en fût, les bières iront rejoindre les rangs des supermarchés de la région ou les tireuses des bars grenoblois. Hors pandémie, les bars et restaurants constituent 65% du chiffre d'affaires de la brasserie.
Pendant la pandémie, on s'est concentré vraiment sur les magasins de proximité, qui eux ont quand même très très bien fonctionné, puisque les gens avaient un petit peu plus de temps pour aller faire les courses. Ça leur faisait aussi bien plaisir de pouvoir boire à la maison ce qu'ils buvaient au bar avant.
Et puis surtout, on a eu la chance que les bars et les restos finissent enfin par réouvrir. Et prochainement, on aura même de nouveau des concerts, ce qui sera très très bien. Mais oui, non, on s'en est pas si mal tiré avec cette pandémie qui a mis tout le monde un petit peu dans l'embarras.
Aujourd'hui, La Furieuse compte 6 employés et produit plus de 350 000 litres de bière par an.
Des litres à partager entre amis et à consommer avec modération, bien sûr. Il est déjà 17h et c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Louis Oscovin et Sarah Paulet à la technique. On se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure sur Radio Campus. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.